Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine, merci de votre fidélité. Dans 30 minutes, nous parlerons du Mali, où le visage de la transition prend forme. Vendredi, Bandao, militaire à la retraite et ancien ministre de la Défense, a été investi président. Son vice-président, le colonel Assimi Goïta, a lui aussi prêté serment. Hier, le nom du Premier ministre a été dévoilé. Il s'agit, vous le savez, de Mokhtar Ouane, diplomate expérimenté. Il a représenté le Mali comme ambassadeur aux Nations Unies. Il a été ministre des Affaires étrangères, puis délégué général chargé de la paix et de la sécurité à l'UMOA. Alors que vous inspire ce trio qui va donc diriger la période transitoire? Quelles doivent être leurs priorités? À quoi ressemblera le gouvernement qui doit théoriquement être annoncé d'ici à demain? Et à quand la levée des sanctions économiques de la CEDEAO? Voilà autant de questions que nous débattrons. Vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. Évidemment, sans surprise, beaucoup de réactions sur la page Facebook et le compte WhatsApp d'Appel sur l'actualité. Comme tous les matins, évidemment, j'en lirai quelques-unes pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, durant les 20 prochaines minutes, ce sont vos questions à la rédaction de RFI. On va commencer justement avec des questions sur la transition au Mali. Bonjour Oumar.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Kaï, nous vous écoutons.
Oui, plus précisément à Nioros.
Très bien, soyez le bienvenu, merci de nous écouter sur place.
Oui, ma première question... Le vendredi passé, le président de la transition, M. Bandao, avec son vice-président, le colonel Assimi Goïta, ils ont prêté serment.
Oui.
Maintenant, j'aimerais connaître, étant donné que la Constitution n'a pas prévu le poste de vice-président, comment ce poste a-t-il pu être créé et accepté? La deuxième question, sachant que la Constitution n'a pas été suspendue, comment la Constitution, avec la charte, s'articule-t-elle juridiquement?
Ah, excellente question posée par Oumar. La charte de la transition se substitue-t-elle à la Constitution? Bonjour Serge Daniel.
Juan, bonjour.
Correspondant de RFI à Bamako, c'est la première fois dans l'histoire du Mali que le poste de vice-président est créé. Pourtant, ce poste n'est pas prévu par la Constitution.
Oui, Oumar a raison, la constitution malienne ne prévoit pas de poste de vice-président. Mais vous savez, après le putsch du 18 août qui a renversé le président Ibeka, les militaires ont décidé de mettre en place un document de transition qu'on a appelé charte de transition. Vous vous souvenez, il y a eu des journées de concertation nationale pour parler de ce document dont on n'a jusque d'ailleurs pas vu la version finale. Dans cette charte, il y a eu la création d'un poste de président. Mais à ce poste de président, vous savez, la CEDEAO ne voulait pas un militaire. Et dans la charte, on a créé également un poste de vice-président de la transition. Et les militaires ont tout de suite à ce poste de vice-président nommé le chef putschiste, le colonel Assimi Goïta. La charte, est, je répète, on n'a toujours pas vu la version finale de cette charte, est un document pour baliser la transition qui a créé plusieurs organes de transition, des postes, dont celui de vice-président, visiblement taillé sur mesure.
Taillé sur mesure, effectivement, puisqu'on rappelle que dans la première version, celle qui a été rendue publique, les prérogatives du vice-président sont importantes. Selon la première version, il aura la responsabilité de la défense, de la sécurité et de la refondation de l'État. La CEDEAO, rappelons-le, a demandé à la junte de revoir sa copie, et on attend encore et toujours que cette nouvelle version de la charte soit rendue publique. Oumar nous demandait finalement comment, dans tout ça, avec une charte de la Constitution, une charte de la transition et une Constitution, comment s'articuler ces deux textes fondamentaux finalement?
Oui, Juan, autour de tout ça, il y a une bataille des juristes quand on les consulte. Ce qu'il faut retenir actuellement, c'est que nous restons quand même au Mali dans un régime d'exception. Il y a eu un coup d'État, ce n'est pas un régime élu qui est au pouvoir, et selon deux juristes consultés, je cite, on peut aujourd'hui parler d'une tentative ou d'un habillage juridique d'un coup d'État. Alors, les putschistes n'ont pas suspendu la Constitution, ça c'est important à rappeler, mais peu après la prise du pouvoir, ils ont quand même rendu public un acte fondamental. Vous avez un acte fondamental qui s'est greffé sur la Constitution pour leur permettre de prendre des décisions, par exemple, des nominations, pour faire fonctionner l'État, pour avoir une existence légale, disons plutôt plus ou moins légale, mais cela n'a pas suffi. Poussé notamment par la CEDEAO, qui voulait un retour rapide à l'ordre constitutionnel, ce qui entraînait de facto la disparition de la junte, les militaires ont voulu une charte de transition qui leur faisait une plage, ils auront au soleil. Aujourd'hui au Mali, vous avez la constitution, à côté un acte fondamental rendu public par les militaires, et une charte de transition et qui va exister en principe pour les 18 prochains mois.
D'accord, une constitution, un acte fondamental et une charte de transition, voilà trois textes qui vont devoir cohabiter durant cette période de transition. Oumar, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, c'est bon, j'ai compris.
Vous avez compris. Eh ben, tant mieux. Si on vous a compris, on remercie évidemment Serge Daniel, correspondant de RFI à Bamako, et on reparlera du Mali et de la transition en deuxième partie d'émission. Nous repassons au standard 33 9 693 693 70. Giraud, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour, j'appelle de Bangui.
Bangui, Centrafrique, merci de nous appeler de la capitale centrafricaine. Vous avez des questions concernant l'élection présidentielle qui se tiendra dans trois mois dans votre pays.
Oui, c'est ça.
On vous écoute.
Ma question est celle-ci, M. Juan. Pourquoi le chef urbain de l'UPC, qui n'est pas centrafricain, est enrôlé dans la liste électorale?
Ah, bonne.
Comment il a fait sur la liste électorale.
Ouais, c'est un enrôlement qui fait polémique hein, en Centrafrique. On a vu circuler sur les réseaux sociaux ces derniers jours une photo. On y voit le chef de guerre, Ali Daras, qui est à la tête de l'UPC, un mouvement issu de l'ex-Seleka. Et il apparaît en train de s'enrôler sur les listes électorales afin de pouvoir voter à la présidentielle du 27 décembre. Des photos qui ont donc fait le tour du net, qui ont suscité et qui suscitent encore la colère et l'incompréhension. Car Ali Daras est certes accusé par des ONG de nombreuses exactions, de crimes de guerre. Il est accusé par l'ONU d'avoir violé plusieurs fois l'accord de paix. Mais ce qui pose vraiment problème avec ces photos, c'est qu'il n'est pas considéré comme centrafricain. Alors on va essayer d'y voir plus clair avec Jeanne Richard. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI, expliquez-nous comment Ali Daras a-t-il pu s'inscrire sur la liste électorale et va-t-il donc pouvoir voter dans trois mois ?
Alors Géraud, d'abord, je voulais dire que j'ai contacté la présidence à Bangui qui m'a bien confirmé que ces photos sont récentes et montrent bien Ali Daras en train de s'enrôler sur les listes électorales. Donc, autrement dit, il ne s'agit pas d'une fake news déjà, ce n'est pas une fausse nouvelle. Cette inscription fait polémique car le chef de guerre d'abord ne parle pas Sango, la langue principale en Centrafrique, et puis il est issu de l'ethnie Ouda des Peuls Mbororo qui vient d'une zone entre le Niger et le Tchad. Et donc voilà, il n'est pas considéré comme centrafricain. Mais comment a-t-il pu s'enrôler sur les listes électorales ? Alors là, les autorités n'ont pas su me répondre clairement sur ce point. Albert Mokpem, qui est le porte-parole de la présidence, n'a soulevé que des hypothèses. Peut-être Ali Daras a-t-il reçu un certificat de nationalité lorsqu'il a été nommé commandant de zone en 2014 sur décret, après avoir aidé Michel Djotodia à renverser le pouvoir. Donc en échange de son soutien en tant que chef du milice Seleka à l'époque, il aurait eu la nationalité. Mmh. Autre possibilité, peut-être qu'un chef de village dans la zone qu'il contrôle autour de la ville de Bambari lui a-t-il délivré un certificat de naissance. Donc finalement, on ne sait qu'il a pu s'enrôler, mais on ne sait pas précisément s'il a bien les documents qu'il faut et même s'il possède bien la nationalité.
Oui, en tout cas, la présidence centrafricaine assure qu'en aucun cas, il ne s'agit d'un accord entre Ali Daras et le président Touadéra en échange d'un éventuel soutien d'Ali Daras pour cette élection présidentielle. Vous avez une autre question, Géraud ?
Oui, ma deuxième question est celle-ci. Quelle procédure qui pourrait retirer son nom sur la liste électorale.
Ah, Ali Daras figure donc aujourd'hui sur les listes électorales centrafricaines. Peut-on envisager que son nom soit retiré désormais ?
Alors, oui, car ni du côté de la présidence, ni de l'opposition, cet enrôlement n'est perçu favorablement. Au téléphone, la présidence a donc bien pris ses distances. Les autorités expliquent aussi que maintenant, c'est à l'ANE, l'Autorité nationale des élections, qui est en charge d'organiser le scrutin, d'entrer en action. Avant de valider une inscription sur les listes, elle doit vérifier la légalité et l'authenticité des documents fournis. Par exemple, si Ali Daras a présenté un acte de naissance, ce document devrait donc être retoqué puisqu'il n'est pas né en Centrafrique et donc son enrôlement serait invalidé. Mais si l'ANE confirme quand même l'enrôlement d'Ali Daras, alors il y a toujours des recours juridiques possibles. L'opposition ne veut pas faire grand cas de cette affaire, rajouter à la polémique, mais dit fermement être résolu à contester l'enrôlement du chef de guerre. Selon le nouveau code électoral là, qui vient tout juste d'être voté, elle aura du 13 au 27 octobre pour le faire.
Merci infiniment, Jeanne-Richard. Giraud, on a répondu à vos questions?
Oui, ok, d'accord, j'ai bien reçu.
Bon, si vous avez bien reçu 5 sur 5, tant mieux. D'ailleurs, j'en profite pour vous signaler que demain, on parlera justement de la Centrafrique avec cette question qui divise. Hein. Elle divise l'opposition, la société civile, le pouvoir. Faut-il reporter ou maintenir l'élection présidentielle qui est fixée au 27 décembre? C'est vrai qu'il y a des retards, notamment concernant l'enrôlement des électeurs. Donc, on en débattra demain. Si vous êtes à Bangui ou ailleurs à travers le pays, appelez-nous. Commencez à vous inscrire dès maintenant. 33 9 693 693 70. Fin d'année 2020 particulièrement chargée hein, sur un plan électoral sur le continent africain, puisqu'on va parler maintenant, on a une question concernant la présidentielle au Niger également au mois de décembre. Bonjour Ali.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Merci de nous appeler de Dosso. Et vous avez des questions, vous, sur les divisions au sein de l'opposition et surtout au sein du principal parti de l'opposition?
Oui, effectivement, au Niger, deux clans politiques s'affrontent au sein du parti modèle Lumana. Ils soutiennent deux candidats différents pour la présidentielle de décembre. Première question, les deux branches du parti tentent-elles de trouver un terrain d'entente pour n'avoir qu'un seul candidat à la présidentielle de décembre? Pourraient-elles y parvenir?
Ouais. Peut-on trouver encore un compromis, effectivement, au sein du principal parti de l'opposition, où finalement le Modène Falumana va-t-il imploser? Bonjour Moussa Kaka.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Correspondant de RFI à Niamey, le principal parti de l'opposition va-t-il présenter deux candidats à la présidentielle?
En tout cas, c'est ce qui semble se dessiner à l'horizon. Les deux ailes rivales du Modène Falumana sont plus que jamais divisées au sortir des deux congrès de Dosso. Tout porte à croire que les deux camps donc auront chacun son candidat. L'aile qui soutient Amadou l'a déjà désigné. La seconde de Noma Oumaru est en voie de désigner le sien aussi. En fait, ce parti a deux problèmes, à l'externe et à l'interne. À l'interne, il y a un sérieux litige, une guerre de leadership, comme l'a dit Ali, où le congrès s'est passé à Dosso dans sa ville. Et tant que cette querelle n'est pas réglée, le parti risque de prendre des coups pour les futures élections présidentielles. À l'externe, c'est un problème judiciaire pour l'un des candidats qui pointe à l'horizon, notamment Amadou. Ce que l'on voit et ce que l'on entend sortir des deux camps, à moins d'un miracle, les deux ailes camperont sur leur deux positions. Deux leaders, deux candidats pour un même parti, et ce qui ne sera pas facile pour les autres. Ce ne sera pas facile parce que bon, les autres partis politiques adverses aussi se préparent à déposer leur liste de leurs candidats à toutes les élections présidentielles. Et le Lumana FA, donc, est à la traîne.
Donc, à moins d'un miracle, dites-vous, Moussa Kaka, il y aura bien deux candidats issus du principal parti de l'opposition. Vous parliez à l'instant des déboires judiciaires d'Ama Amadou. Justement, ça suscite des questions. Ali?
Oui, ma deuxième question, c'est... Je voudrais savoir, Ama Amadou investir... Amadou investi par l'une des ailes, peut-il se présenter malgré ses biens mêlés avec la justice?
Oui, c'est démêlé avec la justice. Il a été condamné, rappelons-le, à un an de prison dans une affaire de trafic présumé de bébés nigérians. A-t-on un élément de réponse, Moussa Kaka?
Vous savez, c'est très compliqué dans cette affaire-là. Amadou le dit fort et fort, à qui veut l'entendre, il sera candidat, ou celui qui l'en empêchera sera lui-même balayé. Alors, au sortir de Dosso, le congrès de Dosso, il a ajouté, je cite, « Si la Cour constitutionnelle ne valide pas sa candidature, alors ce qui s'est passé au Mali voisin se reproduira au Niger. » Très vite, l'autre camp lui répond que Amadou n'est pas l'imam d'Iko, le Niger n'est pas le Mali, et que Ibeka n'est pas Issoufou Mahamadou en fin de mandat. Alors, le problème judiciaire de Ama est plus que jamais réel. Avec une vingtaine de personnes, vous l'avez rappelé, il a été condamné. La condamnation est devenue définitive. Alors, à la Cour constitutionnelle, pour statuer sur le dossier d'un candidat, la Cour se penche spécialement sur les pièces constitutives du dossier et dès qu'il y a une inscription d'une peine dans un dossier, dans un casier judiciaire, la Cour rejette automatiquement ce dossier. C'est une disposition constitutionnelle, m'a-t-on dit donc par un haut magistrat. La Cour elle-même est tenue par les dispositions constitutionnelles. Nul n'est au-dessus de la loi, dit-on, y compris la Cour elle-même. Alors voilà tout le problème de Amadou. Comment faire pour que la Cour valide son dossier sachant très bien qu'il a lui-même purgé la peine d'un an ferme et cette peine est inscrite au dossier. Mmh. Aux dernières nouvelles, à la CENI où on se prépare à imprimer les cartes d'électeurs, Ama Amadou ne s'est pas fait enrôler, il n'aura pas de carte. Et la CENI a fouillé dans toutes ses machines, il n'y a pas de nom de Ama Amadou,
ah oui,
né en 1950 à Yuri.
Ah oui, d'accord. Information, donc Moussa Kaka. On aura l'occasion là aussi de commenter les déboires du principal parti de l'opposition au Niger et de se projeter déjà dans la campagne électorale qui est loin de commencer puisque le scrutin est prévu à la fin du mois de décembre. Ali, bonne journée à Dosso. Merci infiniment Moussa Kaka. Il nous reste 4 minutes. On a le temps de prendre un dernier auditeur. On va parler des questions concernant l'accueil des demandeurs d'asile en Europe. Thierno, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs d'RFI.
Bienvenue Thierno, vous êtes à Conakry en Guinée, nous vous écoutons.
Merci. La Commission européenne a présenté mercredi un nouveau pacte asile et immigration visant à abolir le règlement de Dublin. Mmh. J'aimerais comprendre qu'est-ce que ce nouveau pacte va changer concrètement. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il mette fin à l'attente des personnes dans les camps?
Virginie Guiraudon est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS à Sciences Po Paris, spécialiste des questions migratoires. Alors pour l'instant, ce nouveau pacte dit pacte pour la migration n'est qu'au stade de projet. L'idée avec ce nouveau pacte est de remplacer, comme le disait Thierno, notre auditeur, de remplacer le règlement de Dublin. Vous pouvez nous rappeler dans les grandes lignes ce qu'est le règlement de Dublin ?
Alors le règlement de Dublin, au départ d'ailleurs c'était signé en 1990, c'était vraiment un traité international. Maintenant c'est un règlement européen qui détermine quel pays doit examiner la demande d'asile d'une personne qui arrive en Europe. Et la conséquence a été que en fait c'est le premier pays d'arrivée normalement qui est responsable, donc c'est les pays du Sud qu'on connaît bien maintenant, hein. Malte, la Grèce, l'Italie, l'Espagne dans une moindre mesure, qui doivent examiner ces demandes et qui donc font face à beaucoup plus de demandes à traiter que d'autres pays.
Oui, puisqu'on s'aperçoit finalement que les délais pour examiner les dossiers sont extrêmement longs et qu'on se retrouve donc avec des camps de réfugiés surpeuplés. Ça veut dire quoi, Virginie Guiraudon, qu'à l'avenir, chaque pays européen participera justement au traitement des dossiers?
Alors, c'est un peu l'ambiguïté de ce pacte, c'est que finalement, on dit qu'on va abolir Dublin, on va juste réviser la directive et il y aura toujours la notion de pays d'entrée où, d'après la Commission, on peut examiner en 5 jours, ce qui paraît évidemment infaisable, si une personne est manifestement éligible pour l'asile ou pas. Donc vraiment, il faut savoir qu'on va pas complètement changer les choses. Mmh. Donc pour les 10 000 personnes qui sont encore à Moria, par exemple, on ne voit pas comment ça va vraiment faire évoluer la situation. La grande nouveauté, je pense, c'est surtout qu'on a abandonné l'idée que justement tous les pays participeraient à la réception des demandeurs d'asile. Ils pourront, s'ils ne veulent pas recevoir de demandeurs d'asile, comme c'est le cas des pays de l'Europe de l'Est, mmh, ils pourront parrainer des retours, c'est-à-dire financer des expulsions de personnes qui n'ont pas obtenu l'asile. Donc il y a en fait beaucoup de choses dans ce pacte qui parlent des retours, forcés ou non d'ailleurs, et de la coopération avec les États tiers, notamment en Afrique.
Virginie Guiraudon, il nous reste 50 secondes. Thierno nous disait, est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme, il n'y ait plus autant d'attentes dans les camps de réfugiés, grâce au nouveau pacte?
Alors moi, je ne le crois pas. Hein. Je l'ai lu attentivement, c'est plusieurs centaines de pages. Ce pacte, j'ai cherché désespérément qu'est-ce qui pourrait changer. La seule chose où peut-être qui va évoluer, c'est une autre question aussi importante. Ce sont les bateaux de sauvetage en mer qui errent maintenant pendant des semaines avant de pouvoir accoster. Et là, il y aura pour les pays volontaires la possibilité de plus systématiquement accueillir les personnes qui débarquent de ces bateaux. Donc, je dirais une avancée plutôt pour ce qui se passe en Méditerranée,
en mer, oui,
mais pas pour les personnes dans les camps, malheureusement.
Merci Virginie Guiraudon d'avoir pris quelques minutes ce matin pour répondre à Thierno de Conakry. Virginie Guiraudon, directrice de recherche au CNRS à Sciences Po Paris. On va marquer une pause, retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin.